12h-13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
Bienvenue à toutes et à tous pour ce partage de midi. Tout commence ici par la critique et aujourd'hui il sera question de cinéma, de films au menu. Je le jure, de Samuel Theis questionne les responsabilités du jury populaire au tribunal de Metz et Manas de Mariana Brennan dénonce tout ce qu'il ne filme pas, les abus sexuels dans un petit village de la forêt amazonienne. Les deux films sortent en salle aujourd'hui. Et je vous demande d'accueillir nos deux critiques du jour. Philippe Azoury, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes critique et auteur. Et Raphaël Pierrer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma pour les revues AOC et Trois Couleurs. Bienvenue à tous les deux. Je le jure, c'est le troisième long métrage de Samuel Theis après Party Girl en 2014 et Petite Nature en 2021. Il en signe aussi le scénario. Alors on y rencontre Fabio, 40 ans, qui semble un peu brinque-ballé dans sa vie sans jamais décider d'une direction à prendre. Il vit une histoire d'amour avec Marie, même si cette relation lui apporte une certaine stabilité. Cette liaison reste cachée car Marie a 30 ans de plus que lui. Le jour où nous rencontrons Fabio, il reçoit une lettre. Il a été tiré au sort et se retrouve juré au tribunal de Metz. La vie d'un jeune pyromane est alors entre ses mains.
La cour, levez-vous s'il vous plaît.
Juré numéro 4, Maison Anthony.
Accusé.
Juré numéro 22, Nucci Fabio.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
T'as rien fait. Tu vas juste pour juger quelqu'un.
T'as qu'à leur dire que je l'ai pas lu cette lettre.
T'as pas le choix, c'est une obligation.
Juré numéro 14, Schumann, Julia. Veuillez décliner vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, profession, s'il vous plaît.
J'espère juste que c'est pas un pote à moi.
Des financiers, on a eu des bons ici, hein. Moi, il s'appelait Francis. Ouais, le rôle, c'est un bon, lui.
J'informe la cour que ce crime est passible de la réclusion criminelle à perpétuité.
Prends compte, Fabio. Tu vas juger le diable.
Il y a eu 7 incendies volontaires en 5 ans. Est-ce que vous éprouvez de la culpabilité ?
Là, on parle d'un malade.
Il faut arrêter de l'excuser comme ça.
En quoi, monsieur Fadil, cette peine est trop lourde ?
Je suis dans des problèmes depuis la moitié de ma vie. La prison, c'est pas humain !
Il est accusé d'être pyromane, pas terroriste.
Si vous vous en êtes sûr, très bien.
Moi, j'ai le droit de me poser des questions.
Faut pas comprendre que les faits, faut comprendre les gens.
Alors Raphaël, vous le savez, ici tout commence par un avis rapide. En quelques mots, qu'avez-vous pensé de ce film ?
Il me semble qu'il y a deux films dans Je le jure. Il y a d'un côté un film de justice, de tribunal, comme on en voit beaucoup ces dernières années, qui témoigne d'un intérêt très fort en ce moment pour la justice, l'institution judiciaire, la vérité. Il y a un autre film pour moi qui est celui d'un récit d'apprentissage tardif de Fabio, qui est un homme qui a du mal à avancer dans sa vie. Et il me semble que ce deuxième film intéresse davantage le réalisateur et en tout cas que la greffe entre les deux ne prend pas très bien.
Philippe, même exercice ?
Oui, un film abîmé, comme on dit, c'est le nouveau vocable.
Qu'est-ce que ça veut dire un film abîmé ?
Bah, apparemment, donc, enfin, ça désigne un film qui, lors de son tournage ou lors de la post-production ou de sa promotion, a rencontré un cas de MeToo et dont la sortie, du coup, est ou annulée, cancellée, comme on dit aujourd'hui, ou contrariée. En tout cas, voilà. Enfin, donc, un film abîmé. Je lis ça partout. Donc, je découvre aussi des vocables avec lesquels il va falloir contemporain, quoi, avec lesquels il va falloir faire. Donc, un film abîmé, parce qu'on en parlera, mais il y a un MeToo sur le tournage. Qui est en cours d'instruction, tiens à le préciser. Et donc justement, un film dont la question centrale, c'est de nous demander, de nous amener en tout cas à mesurer notre jugement. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça ? Je veux dire, à quel moment on peut se positionner comme critique, hein, je veux dire, c'est ça. C'est
alors
ça,
Raphaël, justement, avant peut-être de parler du film artistiquement parlant, il faut rappeler que si la sortie se fait discrète, c'est que le réalisateur, Samuel Theis, vous venez de le dire, a été accusé de viol par un technicien pendant le tournage. L'enquête est toujours en cours. Ce qui est troublant aussi, c'est l'écho entre le sujet du film et la réalité des protocoles mis en place pour que le film se fasse tout en protégeant les équipes. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu le contexte de réalisation de ce film suite à cette histoire ?
Oui, en effet, pendant le tournage en juillet 2023, l'un des techniciens a porté plainte, alors que le tournage était commencé déjà depuis plusieurs semaines. Un technicien a porté plainte pour viol contre le réalisateur Samuel Theis. Et il s'est passé ce qu'il se passe extrêmement rarement, voire quasiment jamais, sur un tournage, c'est que la productrice Caroline Bonmarchand de la société Avenue B a décidé de prendre cette affaire. Déjà, ce qui s'est passé, c'est que la victime a décidé de porter plainte, enfin a décidé de dénoncer ce qui lui était arrivé, et que la victime a été entendue par la productrice, qui a décidé de prendre cette affaire très frontalement et de façon très transparente, et qui a attrapé...
Alors très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ?
Elle a pris le livre blanc du collectif 50-50 qui œuvre contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma et pour l'égalité. Et elle a compulsé très vite ce document, et elle a décidé, en discussion avec l'équipe, que le réalisateur serait mis en quarantaine dans une pièce à part.
Confiné, et que, même, je crois, littéralement.
Confiné, et qu'il n'aurait pas de relation avec le reste de l'équipe, et qu'il dirigerait vocalement depuis un autre lieu.
Ce qui veut dire que pendant le tournage, le réalisateur n'était pas avec le reste de l'équipe, mais dans une pièce
les trois dernières semaines, exactement.
Et il a dirigé à partir d'une tour d'ivoire.
Pour les trois dernières semaines.
Avec la liberté pour les membres de l'équipe de dialoguer avec lui ou non, selon leur envie, et avec une cellule. Déjà, il y a une enquête qui a été mise en place, une enquête indépendante qui a été mise en place sur le tournage, et puis aussi une cellule psychologique pour toute l'équipe. Donc c'est un dispositif un peu expérimental qui s'est inventé comme ça de façon très spontanée sur le tournage.
Qui a des conséquences aussi sur la sortie du film, hein. Le réalisateur ne donne pas d'interview, il y a très peu de communication autour du film.
Il est interdit de promo, littéralement, puisque de toute façon, la plainte a été déposée, il y a une constitution de partie civile, enfin, c'est des choses qui sont en cours. Et effectivement, le film sort, malgré tout, on a envie de dire, il sort quand même, malgré ce problème, ou grâce précisément à ce dispositif qui a été mis en place, qui fait que dès le tournage, dès la dénonciation des faits, avéré ou non, je laisse à nouveau la part de doute. En tout cas, à partir de ce moment où ce dispositif a été mis en place, c'est la nature quasiment collective du travail qui est désignée. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, je crois que on entend pas Samuel Theis parler sur le film, mais on entend pas mal les producteurs, les distributeurs, enfin toute la chaîne depuis, qui appuie sur cette distinction du collectif. Ça va pas quand même sans poser un problème.
Enfin, alors lequel, allez-y.
C'est toujours très compliqué. C'est-à-dire que ça touche à la question même de l'auteur, dont on a déjà parlé ici il y a un mois. Il y a eu un débat comme ça. J'étais un des acteurs autour du livre de Jérôme Pacouré qui est sorti au CNRS Éditions sur qu'est-ce qu'un auteur de cinéma, et qui était sous-titré Art, pouvoir et division du travail, justement parce que c'était un livre de recherche sociologique qui nous amenait à discuter la position d'auteur à partir précisément de la question du pouvoir ou de l'abus de pouvoir ou des frontières qui n'étaient pas du tout nettes. Et on peut dire qu'effectivement, dans cette logique-là, les trois dernières semaines du film constituent un travail collectif qui permet de le sauver. C'est quand même un zigzag très étrange que de s'appuyer sur ce que demande une nouvelle génération, ou en tout cas les plus exigeants des chercheurs sur des questions de rapport de domination, de genre, de pouvoir à l'intérieur des plateaux de cinéma, que de s'appuyer sur le collectif précisément pour qu'un film à 5 millions, on va le dire, sorte en salle alors que précisément son auteur, qui quand même, le film n'est pas collectivement signé, il est signé Samuel Theis, on a dit son nom 17 fois depuis qu'on est là, il rend compte quand même d'un point de vue collectif ou pas, d'un point de vue qui est celui de Samuel Theis, il en est aussi le scénariste, et donc j'ai aussi l'impression qu'on se sert de l'usage, enfin de ce concept de collectif pour quand même faire sortir un film dont l'auteur a précisément complètement aurait dépassé les bornes sur la question de l'art, du pouvoir et de la division du travail.
Alors, puisque le film sort, parlons quand même un peu du film, si vous voulez bien, Raphaël. Vous l'avez dit, c'est un film de procès, on en a vu beaucoup. Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là ?
Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il il est centré sur le jury populaire. Et ce qui intéresse le réalisateur, c'est ce qui est le sujet du film, c'est en fait plus précisément la question de cette démocratie qui s'exerce dans les prétoires, et de comment est-ce que, en fait, un tribunal, c'est devenu le dernier endroit dans la société où toutes les couches sociales peuvent dialoguer à égalité. Et pour Fabio, qui est un ouvrier, qui travaille dans une recyclerie de métaux, qui est un personnage très taiseux, qui ne parle jamais, qui ne s'exprime pas, qui n'analyse pas ses émotions, qui est très en distance de ce qu'il ressent, avoir ce rôle-là social, c'est une difficulté très grande. Et donc le film questionne à quel point cet événement impromptu dans sa vie vient le percuter et changer sa personnalité.
Philippe, c'est évidemment un film de procès, on l'a dit, mais il y a une autre partie du film qui, moi, m'a plutôt intéressée, c'est cette histoire d'amour un peu particulière, hein, dans le sens où on voit, très concrètement, un homme de 40 ans aimer une femme de 70 ans. L'amour est filmé. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire-là ?
Je pense même que ça constitue un corps entier en différents points. Il faut accorder le crédit à Samuel Theis de travailler ça, c'est son troisième film. C'est-à-dire à la fois de filmer une région qui est très peu représentée au cinéma, qui est la Moselle, un milieu qui est carrément absent quasiment de tout un pan majeur du cinéma français. C'est-à-dire là, on est vraiment sur prolétariat, sous-prolétariat. Enfin, ce sont des gens qui sont souvent manutentionnaires, qui travaillent sur des chantiers. Et en plus, à l'intérieur de ça, une relation d'amour. Mmh. Parce que c'est de ça dont il s'agit, vraiment d'un amour profond, respectueux et assez beau entre cet homme qui a une trentaine d'années et cette femme qui est, je sais pas,
presque 70, on a l'impression, non?
Mais en tout cas, le film n'en fait pas juste une intention. Enfin, le film, un corps à corps comme ça, très beau, très sensuel, qui fait avec beaucoup de tact. Je pense que c'est une des scènes, effectivement, quand même assez majeure du film, devant lequel le film ne recule pas et fait ça assez bien. Mais c'est vraiment profond chez Samuel Theis, parce que c'était déjà le premier film qu'il avait co-réalisé, qui portait sur sa mère Party Girl, allait déjà frontalement sur ce type de représentation de corps ou de sensualité. Petite Nature travaille quelque chose différemment, mais quand même il prend ça. Mais c'est quand même très intéressant parce que c'est indissociable. Je pense que la Moselle, un sous-prolétariat, milieu ouvrier, et la sensualité et l'absence qu'il a finalement d'habitude à parler, à prendre la parole, à juger un autre prolétaire.
À s'impliquer aussi. Il y a toute une partie, voilà, sur la prise de responsabilité qui
est... Il est pris dans une structure que le film montre quand même assez bien. En tout cas, quand il essaye d'articuler, qu'il arrive à articuler ces deux veines dont parlait Raphaël, c'est la vieille question de Rit Wing Attack. Enfin, est-ce que les subalternes ont-ils le droit à la parole? Ont-ils le droit à parler? Et là, on voit bien que c'est, pour certaines personnes, notamment, je pense à la jeune femme qui est jouée par Louise Bourgoin dans le film, il y a une habitude précisément à s'impliquer, à avoir un avis, à se constituer un avis et avoir un point de vue finalement sur la question. Là où on a quelqu'un, un corps qui est dépossédé de ce point de vue-là et qui n'est quasiment qu'un corps avec des pulsions et surtout beaucoup de pulsions retenues, beaucoup de quelque chose de très très,
très intérieur.
Ouais, très intérieur.
Raphaël, vous disiez vous que ces deux parties du film ne se recoupent pas forcément?
En tout cas, moi, je sens un intérêt différent pour la partie qui est celle du procès, que je trouve qui a été très documentée. Il a travaillé beaucoup avec une avocate pénaliste qui s'appelle Marie Dosé, qui est créditée au scénario. Et c'est très documenté et c'est presque un peu scolaire par moment quand la présidente de la cour...
Sur le protocole de la justice.
Voilà, sur le protocole, sur ce que c'est que définir une peine, qu'est-ce que ça signifie. Et donc, Marina Foïs, qui joue la présidente de la cour, dit c'est quoi le message? Et donc, on a bien sûr que c'est une espèce de clé pour entrer dans le film et de se dire, voilà, qu'est-ce que c'est que le message d'enfermer quelqu'un? Et le film commence d'ailleurs par le premier contact des jurés avec leur fonction, c'est qu'ils vont visiter une prison. Et donc le film met en balance comme ça le fait que on va voir la justice comme une mise en spectacle, comme une mise en récit, comme un endroit où la parole est reine et où la parole est une source de pouvoir aussi. Mais on n'oublie pas que en fait la réalité de la justice, c'est de la réalité d'une peine, c'est d'enfermer quelqu'un dans une cellule où il va être à 4, à 6 sur des matelas par terre avec des cafards. Voilà, donc on a ce moment là qui nous dit n'oublions pas qu'il va y avoir la réalité, et puis ça s'en détourne assez rapidement.
Je le jure de Samuel Theis sort en salle aujourd'hui. Vous l'avez reconnu peut-être, ce petit jingle qui annonce un coup de cœur. Philippe Azoury, si vous, aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'un film, Aimer perdre, de Leni et Harpo Guit.
Oui, c'est un coup de cœur. C'est vraiment sa fonction même, parce que c'est ce type de film qui à la fois est un ovni, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, et en même temps qui arrive à emporter l'adhésion assez forte. C'est deux frères belges, hein, Leni et Harpo Guit, Guit ou double, c'était... J'avais fait la ligne punchline, je l'ai sorti. Donc deux frères belges, c'est leur deuxième film. Ils avaient fait un premier film qui n'est pas sorti en France, mais qui avait eu quand même l'honneur d'être sélectionné à Sundance. Et ils arrivent toujours avec des budgets mais rikiki et une énergie complètement comme ça, pas possible, à emporter le morceau et à créer des œuvres qui sont comme ça des petits bolides.
Alors ça parle de quoi?
Alors Aimer perdre, c'est une fille qui a 26 ans, qui est sans emploi, qui est endettée jusqu'au cou, et ça n'est que des fonctions de survie, mais à un moment ça passe aussi par une espèce de démon du jeu, et c'est assez bien. C'est assez bien tourné. Bon, il faut quand même dire ce qui est, les frères Guit, c'est pas Mizoguchi, question syntaxe, c'est nimp, c'est n'importe quoi de A à Z, mais ça tient sur une comédienne qui s'appelle Maria Cavalier-Bazan. C'est son premier film au cinéma. Chaque fois qu'elle apparaît, elle est géniale. Il se trouve qu'elle est dans tous les plans, donc le film est presque génial. Enfin, en tout cas, il est super. Et elle transmet quelque chose qui est fascinant. Il n'y a pas qu'elle dans le film, il y a Catherine Ringer. Il y avait longtemps. Rikita Mitsuko, évidemment. Il y a Melville Poupeau dans un rôle assez marrant de joueur compulsif, quasiment de junkie du jeu. Enfin, voilà. Et puis, il y a cette fille qui, dans Bruxelles, fait un petit bolide, quoi, réellement. Et je voudrais juste mentionner un truc, c'est que j'ai trouvé une interview dans laquelle elle dit que les réalisateurs, dans les frères Guit, lui ont donné un disque avec la musique qui correspondait à son personnage. C'était ça l'indication de jeu et l'état d'esprit. Et la chanson pour Maria Cavalier-Bazan, c'était « Et c'est parti » de Nadia, dont je rappelle les paroles. « Et c'est parti pour le show, et c'est parti, le stade est chaud. Bon, » c'est un de mes morceaux fétiches. Alors, des gens qui
je
font
vois
ça,
que vous la connaissez par cœur,
mais
bien sûr.
Je peux la siffler.
Il est déjà en salle, ce film? On peut déjà aller voir?
Il sort aujourd'hui. Enfin, il est sorti, là, ça y est.
12h, 13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
Suite de notre débat, direction l'Amazonie avec Manas, premier long métrage de fiction de la brésilienne Mariana Brennan. Nous suivons les rêves de liberté de Martial, 13 ans, qui vit avec toute sa famille dans un village reculé en pleine forêt amazonienne. À l'image, la nature luxuriante, les lumières du Brésil, le chant des oiseaux, en hors-champ, les abus sexuels dont est victime l'adolescente.
Mãe. Claudinha, nunca mais te escreveu.
Claudinha tá melhor que a gente.
Tieli, na hora dela ajudar em casa já.
Não quero filha minha subindo na balsa, não.
Adorei. Ficha lenta, velha.
Catinga.
Vai caçar, Tieli?
Eu? Caçar?
Bora.
Tieli. Bonita, viu? Tem namorado?
Se você tem algum problema em casa, aceite.
Je laisse le souffle parce qu'il est important, on va peut-être en parler. Philippe Azoury, votre premier regard sur ce film?
C'est ce qu'on appelle une fiction documentée. J'arrive avec plein de vocables aujourd'hui.
C'est vrai, ça nous apprenez plein de mots.
Oui, mon cartable est plein de nouveaux mots. Une fiction documentée, c'est un film qui pouvait... qui aurait pu être édénique et qui se révèle très très sombre. Mais c'est un film aussi à l'équilibre un peu flottant, enfin, entre justement tiraillé, divisé entre le documentaire et la fiction, sans parfois arriver à réussir à mêler les deux, en fait.
Raphaël, votre premier sentiment?
Philippe parlait de la découverte d'une actrice pour Aimer perdre. Moi, c'est vraiment ça qui me frappe dans ce film-là. C'est la découverte de cette actrice non professionnelle, Jamily Correa. On a tous été très émus par la disparition d'Emily Deakin ces dernières semaines. Et donc, j'ai beaucoup pensé à Rosetta. Et en voyant ce film, j'avais l'impression de voir un personnage aussi fort que Rosetta.
Alors Philippe, c'est un film qui choisit de rester très proche de ses protagonistes. C'est peut-être ce que vous appelez aussi ce documentaire. Les cadrages sont très serrés, presque étouffants parfois. Est-ce que cette intimité pesante du foyer est immédiatement en contraste avec l'immensité de la nature? Moi, j'ai l'impression que le film est construit comme ça, sur ce double rapport. Est-ce que vous pourriez nous décrire la couleur de ce film?
Oui, sans doute. Faudrait d'abord le situer, parce que Mariana Brennan, c'est son premier long métrage de fiction. Il faut le dire d'ailleurs, puisque Raphaël parlait justement de Rosetta, il est produit par les frères Dardenne, il est coproduit par les frères Dardenne et Walter Salles. Ils se sont liés comme ça pour les deux. Mais c'est quelqu'un qui fait du documentaire depuis quasiment une vingtaine d'années. Elle est portugo-brésilienne, elle a appris le cinéma aux États-Unis, mais depuis 20 ans, enfin voilà, elle fait un travail documentaire au Brésil. Et elle était partie d'abord dans l'idée de faire un documentaire, justement sur l'exploitation sexuelle des très très jeunes filles dans ces régions comme ça de la forêt amazonienne. Et à ce qu'elle dit, elle a rencontré, en fait, depuis, sur une période de quasiment une dizaine d'années, essentiellement du silence, de l'omerta, ou du déni, c'est-à-dire vraiment de traumas qui sont complètement reniés. Bon, c'est des choses qu'on peut entendre, donc elle a fini par basculer sur ce qu'elle ne voulait pas faire à la base, c'est-à-dire une fiction.
Et qu'est-ce que la fiction apporte, alors, à ce thème-là?
C'est quand même intéressant. La fiction lui permet de parler, lui permet de présenter. Mais c'est quand même d'abord, c'est comment elle s'approche de la fiction. Et c'est la première heure du film, moi, en tout cas, la première partie du film, je ne sais pas si ça se mesure en heures, parce que le temps est très étrange dans ce film-là. Ça flotte beaucoup et on ne sait jamais combien de temps ça dure vraiment. Mais la première partie du film est très très belle, parce qu'on ne sait pas exactement ce que nous raconte le film. C'est des instants fragmentaires d'une fille, d'une jeune fille de 13 ans, je crois.
13 Raphaël, ans, oui.
Justement, donc voilà, en pleine forêt amazonienne, au bord du Rio Japura. Et on voit d'abord comment la société de consommation occidentale ou mondialisée, enfin tout simplement le capitalisme mondialisé passe par le téléphone, et qu'elle est pas au bout du monde, en fait elle est comme les jeunes filles de 13 ans à Paris ou ailleurs. Mais on voit quand même aussi une couleur, vous parlez de couleur, et moi c'est là où la première partie me...
Oui, l'image est magnifique quand même.
L'image à ce moment-là, enfin il y a une patte coloriste dont on sait pas du tout si elle est le travail du chef opérateur, de la chef opératrice ou de la documentariste, ou si c'est l'humidité même de la région qui crée comme ça des bleus, des verts qui sont complètement incroyables et dans lequel on fond. Et le film est très flottant comme ça pour l'instant, il est un peu désarticulé, mais c'est pas du tout désagréable, c'est très très intéressant. Et il se resserre ensuite en fiction avec un propos. Moi, c'est là où je suis un peu moins...
Raphaël, sur ce hors-champ, c'est-à-dire qu'on parle d'abus sexuels, mais on ne voit aucune trace à l'image de ces abus sexuels. Comment, en fait, le spectateur arrive à percevoir que c'est bien ça le sujet et pas simplement la vie d'une famille dans un petit village?
Oui, absolument. C'est ce que lui permet la fiction, en fait, je pense. C'est qu'un documentaire l'aurait amené à dire frontalement les choses, et la fiction lui permet de nous raconter la façon dont les abus sexuels et l'exploitation sexuelle sont omniprésent pour toutes les filles, pour toutes les femmes de cette région-là. Et ça permet de nous le raconter sans nous le dire. Jamais. Ça n'est presque pas mentionné, très peu. Voilà. Et effectivement, enfin, je pense qu'on l'a entendu avec la bande-annonce, ces abus, ils passent essentiellement par le souffle, par la présence du corps des hommes, par des choses comme ça qui relèvent vraiment de la mise en scène. Et Philippe parlait des couleurs, et il y a un cadre qui est très frappant au début du film et qui revient à la fin, qui est la jeune fille Marcielle, qui est à l'intérieur de sa cabane, donc cette cabane dans les bois qui est la cabane du petit poussé, qui est une cabane de conte, qui pourrait être un endroit idéal. Et on voit à travers la fenêtre l'eau bleue, lagon absolument magnifique, et donc on s'imagine qu'on est dans un endroit absolument parfait. Et le film va sans arrêt danser sur cette question entre l'enfermement du personnage qui ne peut pas se sortir de sa situation. Chaque fois qu'elle essaye d'en sortir, elle tombe dans quelque chose d'encore pire, et puis la percée de l'horizon. Je parlais de Rosetta parce que c'est un personnage très tenace, très opiniâtre, qui ne lâche jamais et qui est prête à tout pour sortir de ce nœud terrible dans lequel elle est. Et donc ce cadre-là nous pose déjà d'emblée l'idée qu'elle est enfermée et elle va essayer de sortir par tous les moyens.
C'est aussi un film sur la transmission des traumas de génération en génération. Alors la mère, bien sûr, mais la petite sœur à venir aussi, ça c'est sur la fin du film. Est-ce que vous diriez ici, Philippe, que la cinéaste signe un film politique dans le sens où elle prend la parole sur un sujet qui est encore tabou dans ces communautés amazoniennes ?
Oui, totalement. Enfin, c'est son étendard. C'est là où on peut presque dire à un moment donné, ah oui, bon, ça se resserre un peu trop. Mais ce que j'en retiens quand même, parce que le film est très étrange, il dure assez longtemps comme ça en bouche, quoi, en mémoire, c'est quand même qu'elle... Je suis pas sûr qu'elle ait... En tout cas, le film soulève des questions. Je suis pas sûr qu'elle ait toutes les réponses, mais au moins, Marina Brennan s'interroge sur la façon de représenter, vous disiez, le traumatisme, en tout cas la violence, c'est-à-dire à la fois la dénoncer, la transmettre, sans la montrer. Donc on est quand même sur des équilibres comme ça, et effectivement tout le travail autour du son, autour du souffle, le changement de régime d'image, moi qui me trouve, parce que c'est magnifique au début, puis ça devient un peu beaucoup plus terne, et je pense que bon, ça peut dire d'un coup on n'est pas moins inspiré, mais c'est quand même ça relève d'une dialectique sur attention au beau.
Oui, le beau devient poisseux. Vous parliez des lagons par exemple, au fur et à mesure l'eau elle devient terne, grise, marron.
On est dans une marronasse. Oui, je pense que la cinéaste à cet endroit-là est consciente du propre piège dans lequel l'installe le beau. Et il y a, je pense, tout autour du film une sorte de position d'une cinéaste qui est en recherche d'une position de documentariste ou de cinéaste de fiction. Là, la question, elle est hors catégorie, sur à la fois représentation de la violence, transmission de la violence, et sans la montrer. Donc, par quoi on passe, quoi.
Alors, Raphaël,
ça passe par ce corps. Hein,
vous parliez de l'actrice, c'est vrai que c'est une révélation. Elle aussi est de tous les plans ou presque. On la voit se déployer devant nos yeux, à la fois encore petite fille et déjà adulte. Ce passage de l'adolescence qui est filmé, je trouve, de façon assez subtile. Est-ce que vous pourriez nous parler de Jamie Lee Correa?
Ce que je trouve vraiment très fascinant, c'est l'intensité de sa présence et de son jeu, et à quel point elle arrive à être très présente, même quand elle ne fait rien. Même quand elle regarde, qu'elle n'a pas d'expression de visage, elle arrive à occuper totalement le plan. Et ça, c'est assez magnifique à voir advenir au cinéma, cette présence absolue qu'elle a. Et ce que je trouve très fort aussi, c'est qu'elle change au cours du film, mais c'est pas un changement univoque où elle devient adulte. Au contraire, elle, à un moment, elle décide de devenir très féminine et de se maquiller, et on voit son visage changer, et on voit ce moment où elle est entre l'enfance et l'adolescence et le début de la féminité. Et ensuite, elle rencontre une policière qui la voit comme une enfant, et elle redevient une enfant. Et son corps, c'est comme si son corps redevenait petit.
Cette scène est géniale.
Et donc, voir ce double mouvement, c'est quelque chose de très particulier dans le film et qu'on voit rarement, en fait.
Elle joue d'ailleurs assez différemment, il nous reste quelques secondes, que les autres personnages de la distribution.
Oui, elle aimante tout, en fait. Et ce que je trouve très beau, c'est que les autres personnages sont comme des espèces de répliques sismiques de ce qui lui arrive.
Manas de Marina Brennan sort en salle aujourd'hui, et comme toujours, vous retrouverez toutes les informations sur ces deux films sur la page des Midi de Culture.